Entre Fayard et Sapa,
entre Plaine et Doline,
les voix furtives.
Entre Mobilette et Silex,
entre Scooter et Guetra,
les voix se glissent.
Double Blafip,
chèvre et cochon,
les voilà qui rebondissent.
Dans la bergerie,
dans le garage,
dans la dameuse,
dans le chasse-neige
et le tunnel.
Les voix se choquent et s'entrechoquent
et toquent.
Grotte profonde,
crête ventée,
boulangerie,
cours d'école,
des voix sur un plateau,
une émission
tout en Vercors.
Bon appétit. Bele bele chama chama damaso jara tarina eh Anna bele bele chama chama sujata ke tatarina eh Kore duga koro tarawile abulo fatarina samangoroni nyamato la bemi.
Eh bien bonsoir à tous, donc vous êtes bien sur des voix sur un plateau, Annette.
Sur 107.5 pour Radio Diwa et sur 93 pour Radio Royan. Et aujourd'hui, le studio est installé dans une éco-hutte avec, avec une chance extraordinaire. Il y a plein de nationalités différentes. On a, presque la planète entière dans notre petit rond d'éco-hutte.
Ouais, c'est super. Et en plus, on a deux invités d'honneur, Habib et Abdou. Bonjour, Abdou.
Bonjour.
Bonjour Habib.
Bonjour Bernard.
Voilà. Nangadef.
Nangadef.
Magnifique.
Jamre. Jeff Anne. Bonjour. Nangadef.
Nangadef.
Ok. Et on a aussi comme journaliste, on a Léon. Bonjour Léon.
Bonjour.
Donc Léon, tu viens de loin et tu es arrivé hier. D'où tu viens Léon?
Je viens d'Allemagne.
Normalement, c'est toi qui poses les questions, mais là, c'est moi. Tu viens d'Allemagne, d'un coup tu arrives ici, là, ça va? Tu n'as pas trop le trac?
Non, c'est bon.
Voilà, ok. Donc tu ne sais rien, tu ne connais rien, tu ne connais pas ces deux personnes qui sont là, ni notre ami donc Pascal Givert qui est là avec nous. Bonjour Pascal. Ah, Pascal, il a disparu dans la... Bonjour Pascal.
Bonjour Bernard.
Voilà, c'est très bien, super, on va remonter un petit peu. Voilà. Et on est pour on fait un camp sur la transmission et puis c'est un chantier de jeunes, Annette.
De jeunes qui viennent, effectivement, de partout. Alors des jeunes de 14-17 ans qui sont venus à Base Nature en France. Parce que je pense que peut-être ils vont se présenter pour savoir un peu quelles sont toutes les nationalités qui sont présentes aujourd'hui parmi nous.
Ok. Oh, vite fait, hein. On va pas trop les embêter, je crois. Mais quand même, s'il y a certains qui veulent dire d'où ils viennent et pourquoi et comment, ça serait bien, ça serait chouette parce que on va parler de nos invités, mais vous devenez d'où? Vous venez d'où? Peut-être, notre amie Nicole peut venir. Bonjour Nicole, bonsoir. Tu peux venir avec le micro si tu veux, Nicole. Ça nous fait plaisir. Merci. Bon, on peut mettre l'ambiance, on peut l'applaudir. Bravo Nicole. Quand même, d'un coup, elle arrive de loin.
Bonjour. Moi, je viens des États-Unis, plus spécifiquement du Texas.
Ouais.
Oui.
Et tu es arrivée quand en France?
J'ai arrivé il y a quelques jours. Okay. Je ne sais pas exactement.
Bah c'est pas mal, hein. Merci. Et donc tu es venu faire un chantier de jeunes en volontaire.
Oui.
Tu connais un peu l'objectif de notre chantier?
Oui. Pour le doucement, nous allons construire le écoute et en plus, nous allons concentrer sur la transmission. De valeurs et d'autres choses.
Voilà, super.
Un petit tour de...
un petit tour là. Allez.
Bien, alors, donc, nous avons Habib qui est à l'origine de cette rencontre. Parce que c'est vrai que l'action que tu mènes, Habib, au Sénégal, est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu aux jeunes qui sont là?
Voilà, qu'est-ce que merci Bernard. Je crois aussi que monsieur le journaliste a beaucoup de questions à nous poser. Et de même, je voudrais quand même que les autres, parce que c'est le monde qui est réuni ici. Après les présentations, je vois que c'est le monde qui est là en miniature. Et quand on dit que le monde est devenu un village, je crois que l'exemple est là, parce que l'Afrique est là, l'Europe est là, les États-Unis sont là, toutes les nationalités sont là. On peut dire que le monde est là ce soir. Moi, je suis là pour essentiellement, parce que tout simplement, je voudrais remercier de vive voix Bernard et Annette. Après l'émission que mon frère et ami Pascal a eu à faire avec eux, et j'ai écouté la bande depuis Djourbel. Djourbel, c'est ma ville. Et je suis du Sénégal, je suis sénégalais. Et je suis enseignant de profession. Donc, en fait, je ne suis pas en milieu dépaysé quand je rencontre la jeunesse, quand on me donne l'occasion aussi d'évoquer certains problèmes de mon pays. Et qu'on puisse avoir un autre regard. Peut-être que vous avez déjà un regard sur mon pays, mais peut-être aujourd'hui, ce soir, c'est une occasion de poser des questions que vous avez l'habitude de vous poser et auxquelles je répondrai volontiers. Voilà donc pourquoi je suis là ce soir. Je suis enseignant de métier, mais avec mon ami Pascal, nous sommes engagés dans une aventure extraordinaire depuis maintenant presque 9 ans, 10 ans. Une aventure qui nous a amené à entreprendre des choses que nous pensons, parce que peut-être c'est les autres qui pourront choisir le sujet de cela, que nous pensons bien. Pourquoi c'est bien? Parce que nous œuvrons et nous allons continuer d'œuvrer pour le bien-être des enfants, pour promouvoir l'éducation, essentiellement l'éducation des filles dans mon pays. Et là aussi, j'attends beaucoup de questions de vous, parce que quand je parle d'éducation des filles, et pas tout simplement d'éducation, ça peut poser problème, ça peut évoquer des questions. Et j'attends de vous que vous me posiez le maximum de questions, et vraiment, je serai très, très content de pouvoir y répondre. Je vous remercie.
Merci.
Merci.
Il y a un micro qui a un long fil là, donc n'hésitez pas, hein. N'oubliez pas ce qu'on a dit un petit peu au début. Il peut y avoir que transmission s'il y a des convictions. Après le reste, ça nous intéresse pas, la transmission, la publicité, des autres choses. Donc c'est le moment, hein, de donner un petit peu des réponses à vos interrogations. Alors Pascal, est-ce que toi, Pascal, en quelques mots, tu peux peut-être expliquer qu'est-ce que l'association CAP?
Alors, Habib vous a déjà un peu dit quelques mots. Vous avez compris que c'était donc tourné vers l'éducation des enfants. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer donc le Sénégal, Djourbel, en 2007, d'aller dans des écoles et donc de rencontrer des équipes pédagogiques, des directeurs d'école qui avaient des projets fabuleux pour à mettre dans leur carton, des trucs qu'ils avaient pensé pour faire en sorte que l'éducation pour les gamins soit plus aisée, parce que vous imaginez bien que c'est pas aussi simple que ça, et en fait c'était pas possible à réaliser parce qu'il leur manquait toujours, enfin, ils avaient pas des fonds quoi, ils avaient pas l'argent, l'inspection académique dont ils dépendent ne répondait jamais à leurs appels du pied. Et moi, à partir de là, c'est ce qui m'a donné la puce à l'oreille de me dire, mais punaise, avec assez peu d'argent, finalement, on pourrait vous accompagner à mettre en place votre projet. Et de là, quand je suis rentré en France, donc on a créé l'association CAPT, qui veut dire CAPT comme le verbe donc capter, hein, c'était pas innocent de choisir ce truc-là, et l'acronyme signifie Cercle d'Amitié Provence, parce qu'à l'origine, comme vous l'avez entendu dans l'accent et comme l'a dit Chloé, à l'origine on est d'origine d'Avignon, donc Provence, Teranga, la Teranga c'est la terre d'accueil, les Sénégalais disent souvent que ils ont pas de richesse en sous-sol, ils ont la richesse de leur cœur et teranga, c'est-à-dire terre d'accueil. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une, n'importe où, vous arrivez à Djourbel, ils vous croisent, vous êtes un ami d'Habib, oh ben vous allez rentrer dans leur case et vous allez manger, et vous allez, voilà, ils vont partager avec vous même ce qu'ils ont pas, ils vont vous donner votre chambre pour dormir, leur chambre pour dormir, ou ils vont dormir dehors. C'est des choses comme ça, ça c'est la teranga, ce qu'ils appellent la teranga, c'est vraiment ce truc de l'accueil, ce qui est très fort. Et le E, c'est échange. Parce qu'en fait, nous, on n'est surtout pas une association humanitaire, on a un peu souci avec ce mot-là pour moi. Nous, on est une association humaniste, plutôt, de liens et d'échanges entre des gens d'un côté et de l'autre. Moi, quand je suis reparti de Djourbel la première fois, je suis revenu beaucoup plus riche que ce que je l'étais avant d'arriver là. Riche surtout à l'intérieur, quoi. J'avais compris des choses, j'ai découvert des choses. Et depuis, je ne cesse de grandir et je ne cesse de devenir un humain. Enfin, en tout cas, je suis plus en harmonie avec moi-même. Je ne dirais pas si je suis un humain sympa ou pas bien, mais en tout cas, plus en harmonie avec mon âme et avec ce que je vais être. Et voilà. Donc, Capte à la Paz, c'est parti de ça, avec une bande de personnes là-bas, dont Habib, qui vous a dit, donc, qui est un ancien directeur d'école à la retraite et qui a mis donc tout son temps, sa disponibilité au service de la réussite des projets. Parce que moi, bien sûr, après, je suis rentré ici. J'ai mobilisé des gens, des amis, plein de gens qui pouvaient être intéressés, aussi dans l'éducation, des directeurs, des enseignants d'école. Et on a soutenu, on a financé des projets, les fameux projets dont je vous parlais, et donc on pourra détailler tout à l'heure un peu plus en détail. Voilà. Et donc depuis 10 ans, on a à peu près soutenu plus de 10 000 gamins et des filles, comme l'a dit Habib. Donc on soutient beaucoup de filles pour qu'elles puissent aller plus facilement à l'école parce que c'est encore un peu moins simple pour les filles que pour les garçons pour accéder à l'école et à l'éducation. Et allez, je dirais le dernier mot et après je laisse la parole un peu aux autres. C'est que au Sénégal, réellement, l'éducation, l'accès à l'école... Moi, j'ai découvert un truc incroyable avec ça. Et mon roman, il est empreint de ça, le roman que j'ai écrit. C'est cette soif d'apprendre. Vraiment. C'est un truc incroyable. Quand vous voyez des gamins qui sont prêts à faire 5-6 kilomètres à pied pour se rendre à l'école et arriver à l'heure, machin, juste pour apprendre, parce qu'ils ont soif d'apprendre, ça, c'est extraordinaire. Quand eux, en plus, on voit en France des gamins qui... Aller à l'école, c'est compliqué, ils n'ont pas envie, ça traîne les savates. Et parce que, peut-être parce que elle n'est pas trop rigolote non plus, mais en tout cas, c'est cette soif d'apprendre qui m'a vraiment marqué et voilà, ça donnait envie de les soutenir pour y aller. Quoi.
Oh,
incroyable. J'ai quelques histoires concernant les difficultés que vous avez en fait le projet. Est-ce que tu peux clarifier un peu les difficultés qu'il y a pour le projet là?
Alors, les types de projets, alors les difficultés, qu'est-ce que ça pourrait être comme difficulté? Donc c'était des difficultés financières qu'il y avait pour eux. Donc en gros, un projet, celui qu'on a le plus développé, qu'on a le plus reproduit dans plein d'écoles, c'est les boutiques scolaires. Les boutiques scolaires, qu'est-ce que c'est? En fait, les gamins, à la base, pour dans certains quartiers, dans des milieux très défavorisés, en brousse, c'est-à-dire à la campagne. Quand on dit en brousse en Afrique, c'est un peu à la campagne, en gros. Un peu comme on pourrait dire le Vercors, c'est la brousse, quoi. Voilà, c'est un peu pareil. Accéder à l'école, c'est compliqué, simplement pour l'achat des fournitures de base. Acheter deux cahiers, quelques stylos, une règle, matériel essentiel. Quand les parents vont au commerce, aux boutiques de la ville pour acheter ça, ça représente une somme un peu trop importante. En fait, nous, c'est que l'histoire de la boutique, c'était d'acheter en grande quantité en allant directement chez des grossistes. Donc, on est allé à Dakar rencontrer des grossistes en fourniture pour acheter des stylos, des cahiers en très grande quantité à la palette, quoi. Et là, on avait des prix forcément très, très bas. Et en fait, dans l'école, on revend ce matériel-là, ce petit matériel-là, il est revendu, donc c'est pas gratuit. Ça, c'est important, le fait que ce soit pas gratuit, parce que c'est à la fois une histoire de dignité pour les familles font pas l'aumône. Tu vois, c'est difficile pour elles, mais elles font pas l'aumône. C'est pas gratuit, et donc le truc aussi, c'est que du coup, l'argent revient dans la caisse. Donc une boutique scolaire, quand on l'a ouvert une année, elle continue à vivre longtemps. La première qu'on a ouverte en 2008, elle existe toujours. Ça fait 9 ans. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, quand on a fait un projet dans une école, on peut partir l'année d'après, aller dans une autre et avancer comme ça.
Alors, on va juste ralentir un tout petit peu le débit, toujours pareil, parce que tout le monde ne parle pas super bien français. Donc, on va très doucement, on n'est pas pressé, on prend le temps, voilà. On n'est pas. Alors, je crois que c'est aussi. Alors, je ne connais pas du tout l'Afrique, moi. Mais je crois qu'on prend le temps des choses. Hein. On prend le temps aussi de parler beaucoup. Hein. On a le temps. Hein.
Eux, ils disent qu'on a les montres et qu'eux, ils ont le temps.
Alors, moi, j'avais une petite question à poser à Habib, parce qu'il y a quelque chose qui me taribusicote aussi encore. C'est que, en fait, quand les enfants arrivent à l'école, il faut vraiment qu'ils parlent français? Ou comment ça se passe? Parce que. Vous savez que c'est pas leur, du tout leur langue. Enfin, c'est pas. Comment ça se passe au niveau de la langue? Parce que nous, on a des problèmes un peu de compréhension.
Voilà, je crois que c'est une très très bonne question. Peut-être c'est une grosse erreur de l'histoire au niveau de l'éducation de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier. Parce qu'en fait, vous savez que la langue du milieu. Parce qu'encore une fois, la notion de langue maternelle est très subjective. Parce qu'en fait, il n'y a pas de langue maternelle. Il y a ce qu'on appelle la langue du milieu. Si vous prenez le journaliste, comment il s'appelle?
Léon.
Léon, à l'âge de 2 ans, je l'amène au Sénégal, dans mon milieu. Mais quand il aura cet âge-là, il ne parlera pas allemand, il parlera Olof. Le Olof n'est pas sa langue maternelle, disons. Donc, en fait, c'est la langue du milieu. L'homme, l'individu, utilise la langue du milieu. Pour en revenir à votre question, nous avons nos langues du milieu qui sont là. Mais l'enfant, une fois inscrit à l'école, c'est comme... du jour au lendemain, il était extrait de son milieu et plongé dans un autre milieu. La langue qu'il avait l'habitude d'utiliser dans son milieu, du jour au lendemain, on lui dit, abandonne cette langue et tu vas apprendre une autre langue. Donc, nécessairement, il y a un handicap de départ. Si l'enfant, le petit français, va en classe de CI, et le petit Sénégalais qui va en classe de CI, vous comprendrez aisément que le petit français a un avantage extraordinaire sur le petit sénégalais. Parce que l'handicap que constitue la langue est déjà réglé par le petit français, alors que le petit sénégalais, déjà lui, il doit régler le problème de la langue avant d'accéder à la connaissance qui passe par la langue. Parce qu'encore une fois, le médium d'enseignement, c'est le français, ce qui fait que c'est un très, très, très gros problème. Et que quand je dis que ça a été une erreur de l'histoire, parce qu'il y a des pays africains qui, dès le départ, ont opté pour enseigner dans leur langue du milieu. Et aujourd'hui, ces pays-là, effectivement, ont une certaine avance par rapport aux autres pays africains.
Voilà. Mais alors, Habib, le Wolof est enseigné quand même?
Voilà. Alors, parce qu'il y a eu erreur, les gens, quand même, comme on dit souvent, tout le monde fait des erreurs. L'essentiel, c'est de ne pas persister. Et nos dirigeants ont compris que, en fait, il ne peut pas y avoir de développement sans la langue du milieu. Aujourd'hui, il y a des au niveau de l'éducation, nos programmes sont des programmes bilingues. On apprend la langue du milieu et on apprend le français. C'est pour corriger justement cet état de fait qui a fait que les petits Sénégalais parlaient bien le français, mais ils n'écrivaient pas leur langue. Moi, vous m'entendez parler, j'essaie de parler le français correctement, mais c'est pas ma langue. Vraiment, je serais plus à l'aise si je me mettais à vous parler Olof.
Alors,
voyez donc la différence. Man mangi wax français, mais demain am jafé jafé, parce que demain wax mot limay wax dama koy sét. Je veux dire que quand je parle français, j'ai deux difficultés majeures. D'abord, traduire ma pensée, qu'est-ce que je vais dire, et ensuite chercher le bon mot. Le bon mot en France. Voilà les deux difficultés auxquelles je suis confronté. Alors que Bernard, quand il parle, il n'a pas besoin de dire je vais chercher pour ça, pour dire que c'est un mouton. Donc, directement, c'est que c'est un. Donc, il traduit rapidement ça. Voilà donc le problème qui se pose à nous.
Alors, j'ai bien compris tout ça. Merci de ton explication. Vous avez compris, les jeunes, là? C'est qu'en fait, hein, donc il faut, quand ils rentrent à l'école primaire des tout petits, Abdou, toi, qu'est-ce que ça t'interpelle après quelque part?
Oui, parce que moi, c'est intéressant parce que moi j'ai envie de faire le chemin inverse, parce que moi je suis donc d'origine sénégalaise, je suis franco-sénégalais, sénégalois, je sais pas comment on dit. En fait, je suis né au Sénégal, mais je suis arrivé très petit ici, et donc à 2 ans. Et mon éducation, elle est française. Et donc, moi, je suis dans le chemin inversé. Je cherche à retrouver mes origines et à parler ma langue maternelle. Parce que ma langue maternelle, c'est le Wolof. Mes parents, ma mère me parlait Wolof. C'est pour ça que je le comprends très bien. Quand Habib parle, je comprends. Mais j'ai des difficultés à le parler. J'arrive, mais c'est plus difficile. Mais en tout cas, effectivement, lorsque dès tout petit, on doit apprendre quelque chose dans une autre langue qui n'est pas la sienne, je trouve que c'est difficile, effectivement.
Et Abdou est l'exemple parfait de ce que je disais. Abdou est sénégalais, mais il s'exprime mieux en français qu'en Olof. Parce qu'il est dans un milieu français, voilà, donc il parle très bien le français, alors qu'il a des difficultés pour parler la langue de ce maternel.
Familiar faces, run out places, run out faces, breaking hilly for the daily races, going nowhere, going nowhere. There, this eye feeling of day glasses, no expression, no expression. Hit my head, I want to draw my sorrow. Not tomorrow, not tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreaming wish I'm dying, not the best I ever had. I found it not to tell you, I found it not to take. When people run a circle, it's a very, very mad world. Mad. was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello, teacher, then it was my lesson. Look right through me, look right through me. And I feeling kind of sad. The dreaming, wish I'm dying, not the best I ever had. I found it not to tell you, I found it not to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world.
Bon, moi, je voudrais relancer quand même la discussion et poser une question en attendant que le journaliste le fasse. Parce que j'ai entendu Bernard dire que le thème de votre rencontre, c'était la transmission. Comment vous concevez-vous la transmission?
Ah, c'est compliqué.
Qu'est-ce que c'est? Le journaliste, il peut répondre, t'as le droit. Il est obligé.
Bah, pour moi personnellement, c'est une chose qui est c'est très très important en fait. Parce que la radio, c'est une chose... plus ancien que l'internet, plus ancien que la télévision, et pour ces raisons, c'est important qu'on parle, peut-être dans différentes langues, et que les jeunes acceptent les différentes langues, et on parle pour ça, et des thèmes qui sont, mais pas en mode, qui sont un peu différents, mais que ce sont les thèmes qui sont importants, et ça, c'est personnellement, pour moi, c'est très important. Ouais.
Alors, qu'est-ce que quelqu'un veut prendre la parole?
C'est difficile. Bah, j'essaie de pas trop, pas trop imposer des choses ou pas trop me transmettre moi-même, mais juste de insuffler de voir ce que c'est dans chacun et de nourrir ça, de trouver les outils pour que ça se développe et chacun va avoir sa petite fleur intérieure qui va pousser et qui va être en plein couleur. Je vois comme ça.
Je veux bien venir à l'école à Rouen.
Oui, je crois
merci,
que...
Merci comment beaucoup.
Quel est ton nom?
Jean-Siana.
Jean-Siana vient de faire une intervention extrêmement intéressante. Parce que, à travers ce qu'elle a dit, elle a utilisé le mot fleur. Quand on parle de fleur, ça renvoie à quelle image? Quelle image ça vous donne quand elle utilise le mot fleur? Quelqu'un peut-il prendre la parole?
Alors, le mot fleur.
Oui.
Oui.
C'est un peu bizarre, mais Fleur de Mal par Charles Baudelaire. C'est
Fleur de Charles Baudelaire.
Fleur de Mal.
Oui, quelqu'un peut-il prendre encore la parole? Ou bien on donne le micro à notre ami Pascal.
Alors moi, j'ai à quelqu'un, il faut que je donne le micro. Il n'aime pas ça, mais je sais que son nom a un rapport.
Voilà.
Moi, je m'appelle Florent. Florent, ça vient de la flore, de la fleur. Voilà. Et du coup, moi, ce que ça m'évoque, c'est quelque chose qui pousse. Et pour pousser, bah, du coup, faut qu'il y ait un milieu qui soit favorable. Et j'ai l'impression, ce qu'on essaye de faire ici, à la base nature, et bah, c'est d'apporter un milieu qui soit favorable, qui soit riche. Riche de plein de choses pour que les gens qui viennent ici puissent pousser un petit peu avec ce qu'ils peuvent trouver ici.
Oui,
voilà ce que ça m'évoque un peu, la fleur.
Ouais, c'est vraiment ça. Et après, moi, ce que ça m'évoque aussi, parce que moi j'adore les fleurs en fait, c'est juste que c'est beau en fait.
Alors, bah, c'est magnifique.
C'est-à-dire que pour moi,
une fleur, d'amour.
Je suis capable de m'émerveiller pendant des minutes entières devant une fleur. Il y en a que j'aime plus que d'autres, mais c'est beau. Et en fait, ce qu'elle dit, Jean-Siana, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a juste tous des fleurs en nous et on est tous, on peut tous avoir beaucoup de beauté à exprimer et à donner aux autres. Et ça c'est fondamental. Et quand on a compris ça, en tant que pédagogue, de faire justement éclore cette fleur en nous, on, c'est, ça veut juste dire qu'on va faire des gens qui sont bien dans leur, bien sur leur tige, si c'est le cas de la fleur, mais bien dans leur basket pour des humains, et qui vont pouvoir, voilà, on voit là, les êtres qui sont, on dit, ah, ils sont beaux.
Alors.
Ils sont beaux, c'est pas beaux au physique comme les mannequins à la télé. Non, ils sont beaux parce qu'ils resplendissent, parce qu'ils sont. Ah,
vas-y, tu peux rester dans le micro parce que ce que tu dis c'est très beau. Voilà. Alors, Habib, oui, je voulais juste te dire un truc, c'est que si nous, avec Annette, on a choisi le mot fleur, c'est parce qu'il est temps que la belle fleur qui est Annette, elle donne des graines aussi, et que la transmission c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on a planté, maintenant il faut qu'on se retire aussi un petit peu pour que vous puissiez pousser. D'accord? Donc on va arroser, il faut dire Abdou et Habib que ils viennent juste d'arriver. Donc, en commun, ils savent pas le terreau, tout ce qu'on a planté avec Florent, tous les gens qui ont construit, qui ont fait ça. On leur a essayé de leur dire, mais ça va venir doucement, ça va. C'est encore la graine, elle s'imbibe un petit peu, là, doucement. Et on va voir tout, en l'espace de 15 jours, ça va.
Oui, je crois que Bernard a raison. C'est, en fait, c'est un message très fort dans le cadre de la transmission. Je veux toujours retenir ton nom, c'est
Jean. C'est un nom de fleur.
Je vais t'appeler, si je dis Flo, c'est toi. Hein?
Fleur, c'est
ok, on est. Donc, tout de suite, quand on a évoqué le mot fleur, tout le monde a pensé à la beauté. Tout le monde a pensé à l'amour. Tout le monde a pensé à l'enfant qui est arbuste, comme vient de le dire Bernard, l'enfant qui est graine, et nous sommes en train de l'arroser, nous sommes en train de l'entretenir pour que demain ça soit une très belle fleur, et cette fleur va donner un fruit extrêmement agréable. C'est extrêmement important dans le cadre de la transmission du savoir. Chez nous, parce que là encore, peut-être on n'est pas encore vraiment entré dans le débat. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à nous, je pense que nous sommes encore très attachés à certaines valeurs de l'humanité que malheureusement l'Europe est en train de perdre. Tout simplement parce que il y a des facteurs externes qui font que l'Europe est en train de se détacher plus ou moins de ces valeurs cardinales qui ont fait que l'homme, l'humanité a pu progresser. Quand on parle d'Internet, quand on parle de la radio, quand on parle de la télévision, tous ces gadgets-là qui font qu'aujourd'hui, la transmission est interrompue parce que entre les hommes, on a mis des barrières artificielles. Comment on devait faire? Comment lutter? Comment faire pour que ces barrières, en fait, qui sont quelquefois utiles, parce que peut-être qu'on dit que c'est pratique, comment faire que pour que l'humain puisse continuer à maîtriser la transmission du message. Parce que ça, c'est ce qui est extrêmement important. Le message ne doit pas rester entre les mains de l'Internet, entre les mains de la radio, entre les mains de la télévision. C'est une question qui est là et je la mets sous le tapis.
Merci. Moi, je trouve que pour, comme vous avez dit, pour les portables, tout ça, je pense que, en tout cas, j'espère que on va moins les regarder et moins rester sur ça parce que il y a un problème après de communication, c'est vrai. Parce que moi je suis au collège. L'année prochaine, je vais au lycée. Et je pense que plus on avance et plus il y a des personnes qui sont sur leur portable et qui sont dans un boulot avec des écrans. Et je trouve ça quand même dommage. Voilà.
J'ai envie d'ajouter un truc par rapport à ce qu'il vient de dire Habib. Parce que ce que vous êtes en train de vivre, je pense que plus le séjour va avancer, justement, plus vos portables, tous ces trucs-là, peut-être vous allez avoir de plus en plus tout simplement le réflexe de les laisser ou de les oublier. Parce que la transmission, celle qu'il évoquait, elle se fait, elle a déjà commencé à se faire, vous l'avez déjà évoqué, mais la vie quotidienne, ce que vous partagez, c'est juste de la vie quotidienne. Elle est là la culture, elle est là l'échange de culture. Vous êtes en train de faire le plus beau voyage que vous ferez peut-être jamais et qu'aucune agence de voyage ne pourra vous proposer. parce que la plupart des gens qui voyagent, en fait, ils se déplacent. Là, en fait, vous faites un vrai voyage parce que vous rencontrez, en l'espace de quelques jours, vous allez rencontrer un États-Unisien, comment il vit au quotidien, une Turque, comment elle vit au quotidien, une Roumaine, comment elle vit au quotidien, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle aime faire, comment elle fait ses besoins, comment elle va aux toilettes, comment elle prend la douche, comment elle machin, etc. Non, mais voilà, c'est la vie quotidienne, quoi. Et là, tu te rends compte, tu dis, ah, mais non, mais il faut pas comme ça, lui, il faut pas comme ça. Et en fait, tu voyages et vous allez, et surtout, échanger, partager, discuter, vous caler autour du feu. Et voilà, et ça, c'est essentiel. Et là, vous allez oublier le téléphone et compagnie, quoi. Ça, c'est sûr.
Va-t-il y a quelqu'un qui veut intervenir? Je parle.
Oui. Oui.
Alors moi je suis extrêmement là-dedans avec tous les portables, les éléments électroniques. Et je peux par exemple quand je suis chez moi passer énormément de temps sur un ordinateur. Et après je pense aussi qu'il y a une certaine forme de transmission qui peut se faire comme ça. Qui est certes moins... qui se ressent peut-être un peu moins dans les tripes et qui est peut-être moins... je sais pas vraiment comment dire, mais on la ressent peut-être un tout petit peu moins, mais qui peut être quand même présente, même avec la distance. Et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que on peut rencontrer n'importe qui sans forcément être au même endroit. Et bien sûr, si on se voit en vrai et qu'on est au même endroit, c'est bien mieux. Et ces chantiers internationaux sont la preuve. Et Mais ça n'empêche pas de faire des rencontres à travers le monde sans forcément bouger de chez nous. Après, bien sûr, faut faire attention avec toutes les personnes qui peuvent avoir des problèmes mentaux et tout et tout, mais bon.
Alors,
exactement.
Alors moi, je suis en train de me dire que effectivement. Il n'y a pas de transmission s'il n'y a pas de message. Et si le message n'est pas rempli d'amour, c'est-à-dire de vouloir faire pousser les fleurs ou de partager aussi des convictions communes, c'est pas la peine d'utiliser les outils. Les outils, ça sert à faire progresser. Donc, le portable pour dire « t'es où, je suis là, t'es là, t'es là, je suis où, t'es là », c'est bien, bon, ça nous rassure, mais ça nous fait que rassurer. Par contre, là, on a un outil qui est la radio, et c'est vrai que la Bible dit, et j'ai jamais été en Afrique, mais on sent tout de suite que la relation n'a pas besoin de factice. Il n'y a pas besoin de portable. T'es où? T'es là? T'es là? T'es où? T'es bon. Par contre, il faut utiliser les rues que l'on connaît pour rencontrer les gens. Et nous, les rues, si on veut, par exemple, aider un petit peu l'association CAPT, je pense qu'on peut le faire. Hein? C'est pas grand chose, mais on va pouvoir le faire. Ensemble, c'est-à-dire que on réexpliquera un petit peu tout ce qu'ils font, peut-être les petits besoins, parce qu'il y a des écarts malheureusement entre pouvoir acheter un stylo chez nous qu'on jette par terre, qu'on en a rien à faire, et pour quelqu'un c'est super important, et nous on n'en fait rien de stylo, on le jette par terre, on n'en fait rien de tout ça. Alors peut-être que la relation, c'est que nous on est bien fatigué parce qu'on n'a pas de relation. Il y a très peu de relations. Je peux passer toute la journée sans dire bonjour à quelqu'un. Ça m'étonnerait que ça m'arrive à Djourbel. Je peux passer toute une journée sans dire bonjour à quelqu'un. Je sais pas si ça, nous on jette les stylos par terre, mais nous on jette aussi peut-être notre cœur des fois aussi, on se rend pas bien compte. Voilà. Et ce que disait tout à l'heure notre ami Pascal, c'est qu'il est revenu beaucoup plus riche en allant là-bas. Mais je pense que peut-être en s'écoutant aussi entre jeunes, en autres, sans vouloir faire des choses, en courant après un ballon, en dansant, en autre, on va échanger beaucoup et je pense qu'on va pouvoir échanger comme ça. Je sais pas. J'envoie la balle sur la danse parce que la danse est un langage commun.
Moi effectivement je suis... On m'entend là ? Ok. Je suis danseur et chorégraphe. Et la danse, ça me permet de m'exprimer, de voyager aussi. Et de rencontrer et aussi de transmettre, parce que j'aime beaucoup la transmission. Et pour revenir sur la transmission, ce que j'aime bien dans la transmission, c'est que c'est horizontal, dans le sens où c'est un peu d'égal à égal, on se respecte et on échange, on se fait progresser l'un l'autre. Voilà, moi, mon médium, c'est la danse. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Levez la main, tous ceux qui aiment la danse.
On met un peu de musique qui danse.
Non, j'ai pas dit danseur, hein, mais qui aime la danse, qui aime juste. J'ai dit qui aime la danse, j'ai pas dit danseur, j'ai dit juste qui aime la danse. Normalement, tout le monde lève la main là. Juste aimer danser, enfin, c'est bien danser, je pense. Juste pour s'amuser, s'éclater, ça m'a l'air essentiel. Après, il y a la danse métier, ça c'est différent encore. Mais juste danser, bouger, s'éclater, mettre de la musique, c'est quelque chose d'important. Tout le monde, presque. Après, ceux qui n'ont pas levé la main, c'est les timides.
Je voudrais quand même intervenir justement sur le thème de la danse. Venant de la bouche de Abdou, quand Abdou parle de danse, est-ce que vous pensez que c'est la même chose quand vous parlez de danse? Est-ce que vous parlez de la même chose? C'est extrêmement important. Parce que nous sommes ici dans le cadre de la transmission du message. Est-ce que la danse a la même signification pour vous? C'est-à-dire que à chaque fois que je dis danse, pour l'autre, ça peut évoquer tout le temps un moment de détente, un moment agréable, un moment de convivialité. Alors que pour l'autre, danse, ça peut être autre chose. Donc, Abdou, est-ce que tu peux nous dire très rapidement ces deux niveaux de danse?
Je sais pas si j'ai bien suivi, mais j'ai l'impression qu'il y a la danse dont, enfin, celle que tout le monde aime, c'est celle où on va juste bouger pour s'éclater, s'amuser, passer un bon moment, c'est ça. Et j'ai l'impression de ce que je comprends. Et l'autre danse, les autres danses, ou celle qui vous a fait peur, où les gens n'ont pas osé lever la main, parce que peut-être c'est la danse plus technique. Plus professionnel, peut-être moins accessible, c'est peut-être ça qui vous a fait. Ah non, moi je suis pas danseur, moi j'aime pas cette danse, mais j'aime bien danser. Est-ce que c'est ça, Bib, dont tu veux parler? Ou
c'est-à-dire que en Afrique, nous tous nous sommes danseurs, parce qu'à travers la danse,
on s'exprime.
Danse, expression, pour décliner un message. L'enfant qui est initié, parce que la danse est une étape, en fait, de l'initiation. C'est quelque chose qu'on pratique quand vous faites de l'initiation. Il y a la danse, il y a autre chose, mais la danse est une facette de l'initiation. Donc, en ce moment, est-ce qu'on peut dire que percevez la danse sous cette... C'est là où je voudrais vous amener pour vous dire que la danse en tant que telle, en fait, chez nous les Africains, est un moyen de communication, un moyen de communiquer avec eux, un moyen
C'est social, en fait, c'est ça?
C'est social.
Et enfin, ouais, je comprends mieux maintenant. Et moi qui suis issu de la danse hip-hop, c'est d'abord une danse sociale. C'est une danse où on se rencontre, où on drague, c'est la rencontre, en fait. Avant que ce soit la danse, on va dire sur scène, machin, métier, tout ça, la danse d'abord, c'est quelque chose, c'est social. On s'amuse, on se rencontre, on échange, on s'apprécie, c'est comme un peu en Afrique, c'est dans ce sens-là où tu l'as dit.
Voilà,
et alors que j'ai l'impression que, après c'est à vous de répondre, hein, que pour vous c'est pas du tout ça. Et peut-être que je me trompe. Est-ce que vous avez envie de dormir?
Nicole, est-ce que toi tu as saisi un peu tout ce qu'il voulait dire? Toi qui danses.
Dans le cadre de la transmission.
Pardon.
Vraiment, on n'est pas sorti de la danse.
Est-ce que les danseuses, celles qui dansent, quel est votre objectif dans la danse? Quelle est la transmission? Qu'est-ce que vous voulez faire passer? Alors, il y a le plaisir, le social, mais il y a aussi, tout à l'heure, j'ai un mot qu'on dit très peu en France, l'initiation. J'ai l'impression que c'est très fort en Afrique, l'initiation. Comment tu peux préciser pour ces jeunes donc qui sont des hommes et des femmes, entre les deux, qu'est-ce que c'est que l'initiation en Afrique?
L'initiation, c'est accéder au savoir. Et le savoir, ici on parle du savoir des ancêtres. Vous savez que notre civilisation est essentiellement orale. On n'a pas eu la chance au départ d'avoir le code écrit. Donc tout se passait oralement. Or, les dépositaires du savoir ne le donnaient pas à n'importe qui. Il fallait passer par plusieurs épreuves pour accéder à ce savoir. C'est l'ensemble de ces épreuves-là qu'on appelle l'initiation. Il est passé par l'initiation. Il est initié, c'est-à-dire il a reçu le message.
Wow, on apprend beaucoup de choses. Hein. On va. Alors, la chance qu'on a, c'est que c'est enregistré. Donc, malgré tout, on va pouvoir se le repasser pour bien comprendre.
Et donc, la danse faisait partie de ce chemin initiatique. N'est-ce pas, Abby?
Oui.
La danse en faisait partie de ce chemin initiatique. La danse faisait partie de ça, de ce chemin initiatique.
Effectivement. Quand je disais que nous tous nous dansons en Afrique, je danse parce qu'au moment de l'initiation, nécessairement, il y aura une épreuve. Je dois danser pour accéder au savoir.
Ça fait partie du quotidien.
Il y a un autre vecteur qui est vachement utilisé. Afrique, en plus de la danse, c'est le théâtre. Alors pareil, un peu si on doit faire le comparatif entre la danse professionnelle, machin, etc., et la danse, ce que disait la Bible, c'est un peu pareil, c'est pas le théâtre au sens je vais faire une grande pièce, je joue, je suis acteur de théâtre, non, c'est du théâtre de la vie quotidienne, en fait, et donc les enseignants utilisent beaucoup ce vecteur-là. Et aussi dans les maisons, etc. On voit les gamins produire des petites scénettes de la vie quotidienne.
Tu veux dire qu'on peut faire les clowns là-bas?
Ouais, carrément, ouais.
Ah bon?
Carrément.
Ah d'accord.
Moi, la première fois où dans une fête d'école, on assiste à une scène, donc ils sont venus se produire devant nous, les gamins, et en petites scénettes de théâtre, tous les enfants avaient des colliers de barbe blanche en coton. En fait, ils avaient des colliers, tu vois, de barbe comme ça. Bon, c'était des enfants et donc ils avaient du coton blanc parce que, en fait, c'est pour symboliser la sagesse. Comme disait la Bible, donc les ancêtres, il y a un très grand respect des anciens parce que l'ancien transmet le savoir. Mmh. Et donc, en fait, dans la petite scénette, tu avais deux gamins qui avaient barbe blanche et qui, en gros, expliquaient à un autre quelque chose de la vie quotidienne, lui faisaient une petite morale sur un truc. Voilà. Et ça, ils utilisent beaucoup ce vecteur-là aussi pour transmettre.
Oui. Lou.
Oui, alors, je connais plus votre prénom. Comment vous... Habib, voilà. Alors, Habib, est-ce que vous avez une histoire à nous raconter que votre grand-père ou votre grand-père ou grand-mère vous a expliqué, raconté que des valeurs, voilà.
Avant le démarrage de l'émission, justement, là, cette question m'a été posée. Pour savoir la place du conte dans notre éducation.
Alors, est-ce que tu as un petit conte? Est-ce qu'on peut mettre un peu de musique?
Oui, tout
Oui, oui, doucement, on va doucement, hein, on n'est pas pressé. On va mettre. Alors, c'est le moment. Alors, si vous fermez les yeux, on viendra vous réveiller. Hein. Alors, je propose qu'on va, on va finir tout à l'heure avec le petit conte, Habib. Je sais que je suis un peu occidental sur le truc. Hein. Attends bien. Juste avant qu'ils aient le petit conte, voilà, on va faire une petite pause. Moi, j'aimerais savoir, parce que après le petit compte, je suis sûr que vous allez partir dans les plantes qui vont s'arroser un petit peu. Chez nous, en France, on fait le petit compte pour dormir. Pardon. Donc, moi, ce que je voudrais vous demander, ça va, il lui voit clair, là, qu'il tombe pas dans l'escalier, là, que Tito l'a fait. Voilà. La chose qu'on pourrait faire, nous, est-ce que certains seraient intéressés pour aider l'association sur les 15 jours qu'il y a là? C'est pas un piège qui est tendu, hein, c'est juste, voilà, on a compris que la difficulté, c'était quand même le nerf de la guerre, tu l'as dit tout à l'heure. C'est quand même que nous, on a la chance, t'as peut-être pas, mais en tout cas, on peut aider assez facilement, finalement, en ramenant un peu des devises ou faut pas en parler.
Oui, si, tu peux en parler. Après,
est-ce que c'est important ou pas?
Alors pourquoi, souvent, ça me dérange un peu quand on me pose des
voilà,
questions.
Voilà, c'est
là.
Ça.
C'est vrai qu'à Capte, oui, en tout cas ici, depuis ici, en effet, c'est plus de la collecte de devises, si on doit dire le mot comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on est sur de la démarche auto-centrée. Et qu'en fait, ça veut dire quoi, auto-centrée ? Ça veut dire qu'en fait, nous, on n'est pas pour amener des trucs d'ici, là-bas.
Et pas ramener les poubelles.
Voilà,
ou,
parce que souvent, c'est vite assimilé comme ça. Et quand tu dis, moi, combien de fois j'ai dû dire non, alors il faut le faire diplomatiquement, gentiment, pas froisser les gens, qui téléphonent, qui te disent, j'ai la collection tout l'univers de mon arrière-petits-enfants, là, de 1970, ça vous intéresse pas pour les petits Africains? Non, ça va, merci, 200 kilos de bouquins, avec un truc qui date de 45 ans, ça va, quoi. Donc, en fait, voilà. Donc, en général, on fait attention à ça parce que le transport, ça coûte cher. Et puis parce qu'en fait, on préfère consommer local. Donc, quand on crée une bibliothèque dans une école, eh bien, on fait venir un menuisier et un ébéniste de Durbel qui vient, qui prend les mesures. Et avec du bois local, il nous fait un meuble super beau et qui est costaud et qui est robuste. Plutôt que de transporter un meuble d'ici qui est déjà un peu foireux et que tu te trimbales et que quand tu
le prends
là-bas, il va casser.
Transporter les poubelles de la terre sur
le... Voilà, c'est ça. Donc nous, c'est pas trop notre truc. Donc forcément, c'est plus facile donc avec les devises. Par contre, par principe, quel que soit le projet, parce que ça arrive souvent, on a eu beaucoup d'écoles, de collèges qui se sont mobilisés, qui nous ont fait des projets, qui nous ont remis une somme d'argent pour un projet à chaque fois. Quand, pour moi, c'est très important. On va au bout du projet. Le projet, après, il est mis en route. Et je reviens avec des photos, avec des textes, avec tout ça, pour montrer le bout. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces petits fonds au départ.
Donc, d'accord.
Ouais. Donc, ça, c'est.
Donc, moi, j'attends pas de réponse. Hein.
Ouais, non,
j'attends pas de réponse.
Ouais, et,
c'est, non
moi,
pas...
et moi, j'attends rien non plus. Et
voilà.
Après, et quel que soit, je dirais même, quel que soit la. La somme, entre guillemets, moi, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, il est juste de se pencher, de penser à l'autre pendant un moment. C'est ce que j'ai pu dire à des jeunes collégiens l'année dernière, qui étaient des élèves de 5e, qui devaient faire une petite démarche solidaire dans le cadre de l'éducation civique, et qui donc se sont penchés sur la vie de leurs petits homologues à Durbel, à 5000 km de là. Ils ont fait des petites cartes sympas, ouais, un peu sur l'entraide, sur le racisme, sur tout ça, et qu'ils ont vendu. Mais moi, dès le début, j'aurais dit, mais même si c'est 50 euros, peu importe, on s'en fout de la somme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous ayez pensé, que vous ayez imaginé de vous projeter pour l'autre, quoi. Voilà, c'est juste ça.
Ok. Et bon, alors donc, on a donc cette réponse, on la met dans notre tête et on y réfléchira. Ok, merci. Alors, moi je crois qu'il y en a quelques-uns qui s'écroulent, parce que c'est l'heure. Ta réponse, Lou, peut-être, tu peux peut-être la voir de Habib, je sais pas.
Ouais, Lou...
Allez, hop, écoutez bien, parce que sinon vous allez pas vous endormir loin d'ici.
j'ai dit l'importance du conte dans notre culture. parce que c'est une forme d'éducation. Par exemple, l'amitié, qu'est-ce que c'est que l'amitié et comment deux individus, comment doit se traduire l'amitié entre des amis? Enfin, je veux m'excuser de la répétition. C'est une histoire qui s'est perdue dans la nuit des temps, et que nos grands-pères nous ont conté quand on était petits et que nous avons conté à nos petits-enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Alors écoutez, là, c'est une histoire qui nous vient de loin. Hein. Vous venez de loin, alors c'est une histoire qui nous vient de loin, je vous mets l'ambiance. Allez, hop.
Donc, voilà. Il y a de cela très 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 longtemps. Vivaient dans la même concession deux frères. Vous savez, chez nous en Afrique, le père de famille peut avoir deux épouses. Et de fait, tu peux avoir un frère, vous n'avez pas la même mère, mais vous avez le même père. Est-ce que vous avez compris? Dans la maison, vous êtes des frères parce que vous avez le même père, mais vous n'avez pas la même mère. Ces deux frères, donc, Dieu avait fait qu'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. C'était des jumeaux. On ne pouvait pas dire que celui-là c'est tel, même la mère du propre garçon ne pouvait pas reconnaître son enfant. Donc les enfants devant ça, ils avaient juré mutuellement de ne jamais se trahir et que quelle que soit la situation, personne ne saura qui a une mère ici qui n'a pas une mère. Parce que l'autre avait perdu sa mère très jeune, alors que l'autre, sa mère vivait encore dans la maison. Voilà donc le cadre de vie où les deux enfants vivaient. Et un beau jour, la femme, l'une des mères qui était en vie, a voulu savoir lequel de ces deux enfants était son enfant. Parce que les deux enfants se ressemblaient tellement nuit et jour, ils étaient ensemble, ils portaient le même boubou et tout, partout on les voyait ensemble. Il était extrêmement difficile de dire que celui-là, voici sa mère, celui-là n'a pas de mère. Si vous n'avez pas compris, vous m'arrêtez, hein. Est-ce que vous avez bien compris? Mais les deux enfants, eux, ils avaient décidé que personne ne devait savoir qui a une mère, qui n'a pas une mère. Jusqu'au jour où la maman de l'enfant décida qu'il était temps pour lui de reconnaître lequel de ses deux enfants était son enfant. Il entra dans la chambre, la maman se coucha et commença à gémir. Le premier enfant entre dans la case. Il va au canari parce que nous, il n'y a pas de frigo, c'est un canari. Là, si vous voulez boire, vous venez boire au canari. Le premier enfant entre, prend un pot d'eau, se désaltère et sort. Le deuxième enfant entre, voit la femme sur le lit, et lui dit, « Maman, tu es malade ?» Et brusquement, la femme se lève et dit, « Ah, voilà mon enfant !» Elle prit un bracelet et l'attacha au bras de son enfant. Donc, pour elle, c'était terminé. Elle pouvait identifier son enfant. L'enfant sort et va raconter l'incident à son frère. Et son frère lui dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on va faire un autre bracelet. Ils font un deuxième bracelet, chacun portant un bracelet. Revenu à la maison, la femme était dans l'impossibilité de reconnaître qui était son fils. Quelque temps après, elle rentre dans la chambre, elle se déshabille, gardant tout simplement son pagne. L'un des enfants entre dans la maison, dans la case, voit la femme, il ne dit rien, mais prend de l'eau au canari et ressort. L'autre enfant entre dans la case, voit sa mère à moitié nue, prend un boubou et lui dit, « Maman, porte ton boubou. » Et la femme qui dit, « Ah, voilà mon fils. » Elle prend un couteau et elle lui fait une marque sur le front. L'enfant sort, va voir son frère et lui raconte l'incident. Et ce dernier lui dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il lui dit, donne-moi le couteau. Il lui donne le couteau, il lui dit, fais-moi la même marque. Et l'autre fait la marque sur l'autre. Et chacun avait la marque sur le front. À partir de ce moment, la mère a su qu'elle ne pouvait pas séparer ses deux enfants. Et que peut-être c'est le sort qui en avait décidé ainsi. Mais l'histoire n'est pas terminée. Un jour, l'un des enfants décida d'aller à la chasse. En partant, il dit à son frère, je vais te laisser ce morceau de chiffon, tu le mettras sous ton lit. Le jour où tu le verras avec du sang là-dessus, sache que je suis en danger. Le frère partit à la chasse, laissant l'autre frère à la maison. Il va à la chasse, perdu en brousse, et capturé par d'autres chasseurs et vendu en esclavage. Le frère resta longtemps, longtemps, et il n'a pas revu son frère. Un jour, il rentre dans la chambre, regarde sous le lit et voit le morceau de tissu en train de soudre, avec le sang en train de couler. Il dit, je ne sais pas où se trouve mon frère, mais je sais qu'à l'heure qu'il est, il est en danger, je vais à sa recherche. Il sella son cheval, partit en brousse, fit la guerre et libéra son frère, et ils retournèrent ensemble dans leur maison paternelle. Et je crois que c'est là où se termina l'histoire, pour vous montrer combien l'amitié peut être très forte, même quand il s'agit de deux frères. Je vous remercie.
Très beau tour. Je remercie nos invités d'être passés par là. Sachez que la porte, malgré que je suis dessus, elle reste toujours ouverte. Hein? Que nos cœurs aussi restent ouverts et on va passer un bon moment ensemble, je pense, après par la suite. Et on vous tiendra, bien sûr, au courant de tout ce qui se passe aussi. Comme ça, hein? Et vous aussi. Hein?
Ouais, moi aussi, je te remercie, Bernard, encore une fois. Bernard, Annette, Flo, je vous remercie, la base. Je suis super heureux de vous avoir rencontré, en fait, et parce que depuis, j'arrive dans cet endroit-là, c'est la deuxième fois que je vous invite pour une soirée. En fait, c'est magique. Donc, merci d'être là et de faire vivre ce truc, quoi.
Et on va en faire profiter plein, parce que comme a dit notre ami Habib, les fleurs vont pousser et ça va faire des champs, ça va être super beau. Voilà. Hein.
Enfin, moi, je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie, parce que c'est une opportunité unique que j'ai aujourd'hui en rencontrant toute cette jeunesse enthousiaste. Qui s'engage pour sur des choses essentielles, parce que c'est extrêmement important. Vous venez d'horizons divers, chacun avec sa vision de mais tout ça, vous avez abandonné ça à la maison pour faire comme les deux frères que je viens de raconter l'histoire. Et je vous encourage, et je souhaiterais peut-être un jour vous recevoir chez moi pour que vous puissiez vivre les aspects de notre culture, un petit aspect qu'on vient d'évoquer, Abdou et moi, pendant ce soir. Et pour vous rassurer encore, pour vous dire combien ce que vous faites là est important. Actuellement, au niveau du Sénégal, le gouvernement a initié ce qu'on appelle des vacances citoyennes. Comme vous faites comme ça, des jeunes, pendant les vacances, laissent, au lieu d'aller dans les discothèques, au lieu d'aller jouer au foot, décident librement de s'engager, d'aller en brousse, construire des écoles, aider leurs parents dans les champs, et je crois que c'est planter des arbres, je crois que c'est je ne sais pas, parce que d'après ce que j'ai compris, vous êtes dans la même veine, vous êtes dans la même dynamique, vous vous rapprochez chaque jour de l'essentiel en quittant tout le confort que vous avez, en venant vivre dans un cadre qu'on peut dire hostile par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'amour. Et pour tout cela, donc, moi, je vous dis vraiment merci au nom de CAPTE, dont le président est là, mon frère Pascal, un homme extrêmement généreux. Ce n'est pas parce qu'il est là que je le dis, c'est parce que nous avons eu à partager pas mal de choses. Et aujourd'hui, si vous venez à Djourbé essentiellement, vous pourrez constater sur le terrain tout ce qu'il fait pour l'éducation des filles. Des filles, peut-être que ce qui les lie, c'est ce qui lie tous les hommes, c'est-à-dire l'humain. Je vous remercie.